Je vais simplement tenter de vous donner quelques repères à travers quelques grandes figures de la philosophie moderne, c'est-à-dire Descartes, Pascal et, si j'ai un petit peu de temps, Leibniz. Le parcours que je vous propose de faire, c'est celui qui consiste à passer, au fond, d'une science qui s'appuie sur la métaphysique, d'une métaphysique qui se constitue comme science, pour paraphraser un titre célèbre, à une science qui se dissocie progressivement de la métaphysique, qui va devenir une explication des phénomènes, plus qu'une liaison entre les phénomènes et les causes premières de la nature. Donc en fait, une science qui va en quelque sorte s'autonomiser par rapport à la métaphysique, alors que, et c'est pas le moindre des paradoxes, au fond, je vais essayer de défendre un peu cette idée, s'il y a eu science moderne, donc je vais en dire un mot tout de suite, c'est d'une certaine manière en raison justement de cette articulation avec la métaphysique. Autrement dit, c'est la métaphysique, du moins en tout cas telle que Descartes l'a conçue, c'est la métaphysique qui a permis de donner à la science l'allure d'une connaissance, comme dit Descartes, certaine et évidente. Autrement dit, les critères auxquels la science répond désormais, ces critères, ils sont d'une certaine manière produits par une réflexion métaphysique dont le but est de découvrir ou de remonter, peut-être de remonter au plutôt que de découvrir, de remonter au principe premier de la connaissance, on pourrait dire, si vous voulez, aux idées simple ou fondamentale de l'esprit humain. Et par conséquent, la métaphysique classique, enfin moderne plutôt d'ailleurs, hein, ces termes sont toujours un petit peu difficiles à utiliser, donc la métaphysique, disons cartésienne, voilà, pour aller vite, la métaphysique a cette singularité, si vous voulez, à l'époque de Descartes, de ne absolument pas porter sur le monde ou sur la nature, mais sur l'esprit et sur Dieu, et la relation justement entre l'esprit et Dieu. Et c'est cette relation entre l'esprit humain et Dieu qui va d'une certaine manière permettre à Descartes de trouver les fondements certains de la science qu'il cherche, non pas au niveau de l'expérience ou au niveau du tâtonnement expérimental, mais au niveau justement l'inspection, pour ainsi dire, des ressources ou des capacités de l'esprit humain. Bon, alors avant d'en venir à Descartes, qui sera la première et la plus longue, peut-être même unique, on verra en fonction du temps, partie, non, quand même pas, j'essaierai quand même de dire deux, trois choses de plus. Avant d'en venir à Descartes, je voudrais, en conformité avec le petit résumé que j'ai envoyé à Jean, rappeler la célèbre phrase de Galilée qu'il a répétée aussi bien dans l'essayeur Il Saggiatore que dans les lettres à Licetti, selon laquelle, célèbre phrase dont on dit à juste titre hein, que ça marque le début des temps modernes, que la nature est écrite dans la langue mathématique. Que la nature est écrite dans la langue mathématique et que les objets de cette nature, ce sont des triangles, des sphères, des cercles. Et celui qui sait les mathématiques, d'une certaine manière, celui qui connaît ces choses-là, connaît aussi la nature, c'est-à-dire sait lire la nature, puisque la nature est écrite dans la langue mathématique. Alors évidemment, elle n'est pas écrite dans la langue mathématique pour qui ne connaît rien aux mathématiques, pour le vulgus pecus. Pour celui-là, la nature, c'est des arbres, des fleurs, des étoiles, etc., etc., ce que nie absolument pas Galilée, bien sûr. Mais la nature dans son fondement ou dans son fonctionnement n'est rien de ce qu'on observe phénoménalement. Elle est un ensemble de figures divisées par des mouvements qui ont entre eux ou entre elles, ces figures, des rapports qui sont de nature calculable. Ça, c'est la grande et nouvelle idée de la science moderne, la science consiste dans le calcul ou dans la mesure, mais ça revient en gros au même. Et l'idée de Galilée, c'est que si on se débarrasse au fond des commentaires dont la nature est la plupart du temps l'objet, a fait la plupart du temps l'objet, n'oubliez pas que la physique d'Aristote, Phusis, c'est un commentaire, enfin une interprétation de la nature. Et la plupart des traités galiléens, 1618, 1630, la plupart des traités galiléens sont dirigés contre l'aristotélisme. C'est-à-dire contre cette idée qui est fondamentale chez Aristote, que la physique se comprend par les causes et les principes, donc se comprend, si vous voulez, d'une façon ontologique. La nature, si vous voulez, est quelque chose qui a une essence, qui a une quidité, un tiesti, et non pas d'une façon mathématique. C'est-à-dire qu'au fond, la nature est un ensemble de causes, de choses, de corps, de mouvements, mais qui doivent s'interpréter de manière à savoir à chaque fois ce qu'est le corps en question, c'est-à-dire ce à quoi il tend. Voilà, la grande et unique question aristotélicienne, en physique comme dans d'autres domaines, c'est connaître une chose, c'est savoir quel est son but, vers quoi elle tend, quelle est sa finalité, on dirait en langage moderne. Du coup, évidemment, la relation aux mathématiques est une relation complètement extrinsèque. C'est-à-dire que les mathématiques, étant une science abstraite, n'a rien à voir avec la physique. Et du coup, pendant des siècles, si vous voulez, faire de la physique, c'est savoir ce que sont les choses naturelles, dans leur essence, dans leur quidité. Ça n'est pas savoir, c'est même une idée qui ne se pose même pas, savoir, si vous voulez, au fond, quels sont les rapports de grandeur et de mouvement entre les corps de la nature, rapports de grandeur et de mouvement susceptibles, justement, d'être mesurés, calculés et formulés dans des relations qui sont des relations de type algébrique ou géométrique ou proportionnel dans le langage de Galilée. Voilà. Voilà pourquoi Galilée est le premier qui a établi une loi de la nature, c'est-à-dire une relation constante entre des grandeurs variables, qui sont l'espace et le temps. C'est la loi de la chute des corps, première loi scientifique, parce que c'est le premier énoncé formalisé. Au lieu de dire ce qu'est le mouvement, ou la gravité, ou la pesanteur, Galilée, il triche un peu. Il dit qu'il s'abstient de dire tout ça, il ne sait pas ce que sont les choses en elles-mêmes. Mais en revanche, il sait parfaitement comment, en les mettant ensemble, comment, justement, mesurer leur covariation. Et c'est ça qui intéresse le savant qu'est Galilée. Voir comment covarient les éléments qui composent la nature et dégager les lois qui sous-tendent justement ces rapports de covariance entre les différents éléments de la nature. Dégager les lois de ces rapports. Et ces lois, au fond, pour Galilée, ces lois sont d'une certaine manière l'intelligibilité même du réel. Autrement dit, Galilée ne développe pas une conception, et je m'oppose à Duhaime, dont l'autorité est pourtant absolument incontestable. Galilée ne développe pas une conception, si vous voulez, phénoméniste de la science. Il ne s'agit pas, si vous voulez, de sauver les phénomènes, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, si vous voulez, de trouver quelles sont les véritables lois auxquelles la nature obéit, si on peut parler d'obéissance. Car il s'agit de lois scientifiques, il ne s'agit pas de lois juridiques, il ne s'agit pas de lois au sens de commandement, il s'agit de lois au sens de relation. Bon, première loi liée à un concept nouveau de la nature, qu'on va appeler, si vous voulez, un concept mesurable, mathématisable, un concept, si vous voulez, tel que finalement, une chose naturelle, c'est une chose qui a une force, ou un poids, un volume, ou une masse, une vitesse, etc. Voilà, c'est comme si, au fond, au lieu de parler de la chaise qui est devant moi, en tant qu'elle est une chaise, un objet d'utilité commune pour tout le monde, je transcrivais ça en un point avec un certain nombre de coordonnées, de vitesse, de pesanteur, de, je sais pas quoi, de mouvement, de poids, etc., etc. J'en faisais, au fond, une fiche purement métrique. Et c'est en tant que, justement, chose purement métrique que je peux la comparer à d'autres choses qui sont pas des chaises, qui peuvent être des tables, des arbres, des livres, mais qui, justement, vont, en étant comparées les unes aux autres, servir à dévoiler, pour ainsi dire, un ordre de la nature qui n'est absolument pas apparent. Voilà, l'apparence, c'est les chaises et les tables et les livres. Mais l'essence, c'est ce qui peut être formulé dans un rapport, non pas causal, mais dans un rapport métrique, dans un rapport de calcul, ou dans des coordonnées métriques et de l'ordre du calcul. Voilà comment, d'une certaine manière, l'univers s'unifie. Parce que, quelle que soit la variété des choses de la nature ou de l'univers, elles sont toutes faites de la même manière, c'est-à-dire elles peuvent toutes être réduites, et réduites n'a pas un sens péjoratif, elles peuvent toutes être réduites à des grandeurs qui sont scalaires ou vectorielles, selon ce qu'on... mais à des grandeurs. Et au fond, le concept de grandeur unifie la nature. Mais vous voyez la conséquence. D'une certaine manière, la nature n'est plus de l'ordre d'une enquête ou d'une interrogation ontologique. Elle est purement et simplement de l'ordre d'une description phénoménale destinée à mettre en évidence des relations, et qui sont des relations entre des éléments, qui sont des relations entre des choses abstraites, si vous voulez, et non pas des choses concrètes, des relations qui sont homogènes dans l'ensemble de l'univers. C'en est fini, si vous voulez, du monde supracéleste et du monde sublunaire, donc du monde céleste et du monde sublunaire, aristotélicien, le monde de la perfection et le monde de la corruption. C'en est fini, pourquoi ? Parce que les lois qui gouvernent la nature physique sont les mêmes que celles qui gouvernent la nature céleste. Le ciel et la terre, c'est des termes de Coiré, le ciel et la terre, au fond, se retrouvent, se rencontrent et deviennent, d'une certaine manière, une seule et même chose qu'on va appeler de plus en plus l'univers, justement. Bon. Galilée n'est pas quelqu'un qui s'occupe de métaphysique. On peut pas parler de philosophie chez Galilée. Je sais bien qu'on parle de philosophie naturelle, mais c'est au sens où on l'entend à l'époque. Philosophie naturelle, ça veut dire la physique. On traduit, nous, la physique. Mais Galilée ne fait pas de philosophie et il a vis-à-vis des philosophes, des réactions, d'impatience, quelquefois mal contrôlées, d'ailleurs. Bon, quand on lui pose des questions de cet ordre-là, bon, il renvoie les gens dans les cordes en leur disant qu'il a mieux à faire qu'à s'interroger sur ce que sont les choses, etc., etc. Bon. Voilà. Mais premier point dans mon exposé, j'ai rapidement fait cette rapide évocation de Galilée. Premier point dans mon exposé, la science cartésienne, ou plus exactement la reprise par Descartes du concept de science. Car le concept de science de Descartes, c'est celui de Galilée. Et c'est celui de Galilée qu'il a pu entrevoir lors de ses conversations dès qu'il est arrivé en Hollande, en 1618, ses conversations avec Isaac Beckmann, qui était un grand savant, un grand physicien, avec qui il s'est fâché par la suite, mais qu'il a initié à ce qu'on appelle, sans doute un peu à tort, la physique mathématique. La physique mathématique, c'est-à-dire évidemment pour nous qui avons grandi dans ce chose-là. Quand on a ouvert un livre de physique, il y avait des équations, il y avait des principes, il y avait des choses comme ça. Ça nous paraît complètement naturel. Mais imaginez quelqu'un qui a appris la physique à l'école de la Flèche, dans les grandes écoles de l'époque, qui a appris la physique à partir des commentaires qu'on faisait d'Aristote. Autrement dit, où il n'y a pas un calcul, pas une mesure, voir quelqu'un qui lui dit, mais au fond, la physique, ça consiste à calculer, par exemple, les rapports entre deux corps qui se choquent ou la chute d'un corps selon le milieu qu'il traverse, avec des résistances plus ou moins fortes. Ben, c'est une révélation. C'est une révélation parce que ça montre que on peut arriver en physique, c'est-à-dire dans la connaissance de la nature, finalement, à des connaissances aussi certaines que celles qu'on a en mathématiques, mais hélas, seulement en mathématiques. Seulement en mathématiques. Le premier point, dans ce premier point que je veux évoquer, c'est justement ce rapport, si vous voulez, aux mathématiques. Ce rapport de la science aux mathématiques. Dans son premier ouvrage, qui n'achèvera pas d'ailleurs, qui s'appelle « Les règles pour la direction de l'esprit », qui sans doute composé vers 1628, donc bien après la rencontre avec Beckmann, bien après l'initiation à la physique mathématique. Mais je vous dis encore une fois, alors physique, je reviens juste en arrière un tout petit peu, mais je perds pas le fil de ma phrase. Juste un peu en arrière, Beckmann a montré à Descartes comment Galilée s'y prenait pour faire ses calculs. Par exemple, dans la pression des fluides, ou il y a beaucoup de choses auxquelles s'intéressait Galilée. Et pas simplement l'astronomie, mais des tas de problèmes physiques, de mécanique, etc., etc. L'accélération, la résistance des matériaux à la rupture, des choses comme ça. Bon. Descartes, toujours piqué au vif dès que quelqu'un a trouvé quelque chose qu'il trouve intéressant, comment ça se fait qu'il ne l'a pas trouvé lui, quoi, en premier. Donc, se met dardard au travail. Et essaye justement de formaliser la loi de la chute des corps, c'est-à-dire de trouver finalement une relation mathématique, géométrique, on disait à l'époque, car c'est le langage des proportions, hein, c'est évidemment pas des fonctions, entre justement l'espace, et c'est-à-dire l'espace que parcourt un mobile dans la chute et le temps qu'il met à parcourir ce mobile. Et au fond, Descartes ne parvient pas à établir, disons, l'équation simple pourtant qui sera celle de la loi de la chute des corps. Descartes n'y parvient pas. Et Coiré a montré pourquoi justement il n'y parvient pas. C'est parce que, à l'inverse de Galilée, que par ailleurs il suit dans sa méthode, à l'inverse de Galilée, Descartes peut être plus moderne que Galilée d'une certaine manière. Ne veut pas entendre parler de force, d'impétus, d'élan, d'accélération. C'est-à-dire de toutes ces notions qui comportent un élément de virtualité. Au fond, pour lui, si la science, et il aspire de tout son être à ce que la science le soit, est mathématique, je reviens à mes mathématiques, si la science est mathématique, elle doit être expurgée de tout ce qui ressemble à du virtuel, c'est-à-dire à de l'être en puissance. La science ne doit avoir affaire non seulement qu'à des grandeurs constatables, bien sûr, mesurables, mais elle ne doit avoir affaire qu'à des relations actuelle entre les corps. C'est-à-dire, on ne doit pas présupposer, si vous voulez, par exemple, une énergie dans le corps qui en rencontre un autre, qui en choque un autre. On ne doit pas présupposer une tendance au mouvement. Autant de choses qui existent chez Galilée. La tendance au mouvement, l'impétus, etc., etc. Descartes ne veut pas entendre parler de ça. Il ne veut pas entendre parler de ça parce que ça sent la scolastique. C'est-à-dire, ça sent justement la dualité entre la puissance et l'acte, le virtuel et l'actuel, la cause pleine et entière et la cause partielle ou effective. Et ça, Descartes, mathématicien radical, ne veut pas en entendre parler. Alors justement, il abandonne, enfin il croit l'avoir trouvé, mais bon, il sait bien que non, la recherche sur la loi de la chute des corps, et il se met à travailler sur le concept moins de mathématique que de mathésis, c'est-à-dire de science en général, afin de donner justement à la science la certitude, l'exactitude des mathématiques telles qu'on les pratique dans les écoles. Au fond, Descartes est déçu que les mathématiques ne soient que des mathématiques, qu'on ne fasse pas des mathématiques un usage plus large et plus fécond que celui qui consiste à se donner des problèmes et les résoudre d'une façon un peu vaine, hein, c'est-à-dire au fond comme un jeu de l'esprit. Descartes, au contraire, veut faire des mathématiques non seulement le modèle de la science, mais une science utile, c'est-à-dire une science qui nous permette justement de trouver le plus de choses qu'on peut trouver dans la nature. Et donc, les mathématiques chez Descartes ne sont pas un langage destiné à formaliser des choses ou des relations. Les mathématiques sont un outil, une méthode. Ben, voilà, le concept est donné. Il n'est pas tellement donné dans les régulés, il le sera évidemment par la suite, mais dans les régulés, au fond, l'équivalent du concept de méthode, c'est mathésis. C'est la mathésis, c'est la science. Et notamment cette science universelle, la mathésis universalis, cette science universelle qui doit permettre d'aborder tous les sujets qui se posent aux hommes d'une façon aussi simple que lorsqu'il s'agit de problèmes mathématiques. Mais à la différence des mathématiques qui ne portent sur rien, cette science à laquelle Descartes pense est une science qui portera sur l'ensemble des problèmes et des choses que l'homme rencontre dans l'ordre de la connaissance. C'est pour ça que, dans ce texte dérégulé, Descartes, finalement, met de côté la question de la vérité. Hein ? Il ne s'agit pas, si vous voulez, de s'occuper tout de suite de savoir ce qu'est la vérité. Il faut construire ou se donner une méthode qui nous permette, justement, déjà, de ne pas s'égarer dans la recherche de la vérité, de ne pas prendre nos intuitions pour des certitudes, de ne pas errer ou de ne pas tomber sur une vérité au hasard. Voilà. Donc, finalement, les mathématiques sont une propédeutique à la recherche de la vérité. Mais c'est pas une recherche de la vérité. Première différence avec Galilée. Les mathématiques, pour Galilée, disent la vérité des choses et de la nature. Pour Descartes, les mathématiques sont un guide dans l'exploration de la connaissance. Mais Descartes ne fait pas des mathématiques la réalité même du monde, pour une raison que j'évoquerai dans le deuxième point. Mais avant de passer à ce deuxième point, je veux ajouter une ou deux petites choses, qui est que l'ambition, si vous voulez, de Descartes dans ce texte qui s'appelle « Les règles pour la direction de l'esprit » et qui est au fond de donner une méthode à l'esprit pour connaître le plus de choses possible, le plus simplement possible et de la façon la plus systématique, la plus liée. L'ambition de Descartes, c'est de ramener d'une certaine manière tous les problèmes cognitifs, on dirait les choses comme ça aujourd'hui, à l'ordre et à la mesure. À l'ordre et à la mesure. À la mesure, c'est facile. On sait ce que c'est que la mesure. Même si, pour Descartes, la question se pose de savoir selon quelle dimension il faut l'établir, etc. Mais, bon. Mais la mesure ne peut pas couvrir tous les problèmes cognitifs. Mais même, il faudrait dire, si vous voulez, que les problèmes cognitifs les plus importants sont des problèmes qui ressortissent à l'ordre et non pas à la mesure. Et non pas à la mesure. Autrement dit, déterminer, par exemple, un ordre de progression dans la connaissance, ça peut pas être une question de mesure. En revanche, c'est une question d'ordre. Donc l'ordre est beaucoup plus vaste que la mesure. La mesure, c'est l'ordre appliqué à la quantité. Mais c'est tout. Mais Descartes a l'ambition de faire de l'ordre, justement, le fil conducteur et le moyen pour parvenir au maximum de connaissances possibles par l'esprit humain. L'ordre. Et l'ordre est au fond quelque chose, nous dit Descartes, de facile et de simple. L'ordre, ça consiste, si vous voulez, à passer du simple au complexe et surtout à ne rien oublier entre deux étapes ou entre deux moments de la complexité. Car il suffit qu'on oublie un maillon, je reprends la célèbre image de la chaîne, catena chez, dans les régulés, il suffit qu'on oublie un maillon pour que toute notre démonstration soit faussée. Donc vous voyez que le souci de Descartes est quasiment, si vous voulez, un souci d'exhaustivité ou plus exactement d'énumération. C'est-à-dire que il faut que d'une certaine manière nous puissions énumérer les différents éléments dont se compose une question de manière à ce qu'on sache avec certitude qu'on n'a pas oublié un point dans l'énoncé de cette question. Vous voyez cette idée qu'au fond, il y a une continuité, en quelque sorte, dans le questionnement ou dans l'interrogation, et c'est cette continuité que Descartes appelle aussi une série. Hein, une série, qui est un terme qui n'est pas encore mathématiquement utilisé. Il le sera avec Leibniz, notamment. Mais qui est la série, si vous voulez, c'est la manière dont on peut disposer un ensemble de choses de telle manière que cet arrangement ou cet ordonnancement donne des renseignements que la considération de chacune des choses n'aurait pas permis de donner ou de trouver. En mettant les choses ensemble, on voit beaucoup mieux ce qu'elles sont qu'en les considérant isolément les unes des autres. Le deuxième point que je voudrais évoquer est beaucoup plus important, si vous voulez, que le premier, dans la mesure où le premier se résume à une sorte de jeu, de disposition, de rassemblement des éléments du savoir et des éléments simples du savoir. Bon, le deuxième point, c'est justement cette question de la vérité que l'on met d'abord à l'écart pour ensuite tenter de la trouver, mais une fois qu'on est en possession de la méthode. La méthode a toujours pour objectif, chez Descartes, mais avant qu'il en thématise l'esprit dans le discours de la méthode, la méthode a toujours pour objectif chez Descartes la réduction du complexe au simple. Au fond, si vous voulez, la méthode, c'est essentiellement l'analyse pour Descartes. Il semble qu'il n'y ait pas chez lui, justement, une sorte de réversibilité, si vous voulez, entre l'analyse et la synthèse. Mais que l'analyse soit toujours pour lui le fil conducteur dans l'examen des problèmes. Il faut donc décomposer les notions, les connaissances, les objets qui se présentent à nos sens d'une façon complexe, il faut les décomposer et en les décomposant, chercher justement les éléments les plus simples afin de pouvoir, à partir de ces éléments, ordonner les différentes choses, les choses de façon différente. Vous savez, il y a une chose qui est assez curieuse de la part d'un philosophe et d'un savant comme Descartes, C'est que le modèle pour lui de la connaissance ou de l'activité zététique, de l'activité de recherche, c'est un certain type d'artisanat. C'est les dentelières, ceux qui font des tapis. Vous voyez, il y a un autre exemple qui ne me vient pas à l'esprit, mais peu importe. Bon, ce type d'activité, pourquoi ? Parce que c'est une activité qui fait avec le moins de matériaux possible le plus grand nombre de configurations possibles. Avec des fils, on fait des figures extraordinairement différentes, multiples, avec les mêmes fils. Voilà. Donc avec l'unité, on fait de la diversité. Voilà le sujet d'admiration de Descartes. Comment justement on parvient à faire des complexités, des ordres aussi complexes que les dentelles, que les tapis, avec finalement, d'une part, un matériau homogène, quelques fils, et d'autre part, toujours la même méthode, qui est une méthode de composition. On part du simple et on arrive au complet. C'est ça le modèle de Descartes. C'est pas la théologie, c'est pas la philosophie, et c'est même pas les mathématiques. Ce sont les artisans qui font, qui pluralisent l'ordre, qui montrent que l'ordre, c'est quelque chose qui peut être inventé de 36 manières. Il n'y a pas un ordre chez Descartes. Il y en a une infinité. Descartes n'est pas à la recherche de l'ordre. Il est à la recherche de ce qui produit l'ordre en chaque région du savoir ou de la connaissance. Voilà. Alors, rapporter à l'esprit humain, ça veut dire qu'il faut arriver à trouver ce qui, justement, dans l'esprit, est premier, primitif, au sens où, comme un germe, si vous voulez, ou comme une semence, c'est le terme qu'il emploie, qui permet, étant développé, d'acquérir, justement, un très grand nombre de connaissances. Il parle, dans les régulés, de semences de vérité. Les semences de vérité, où il parle aussi de nature simple. Bon, ce qui m'intéresse, si vous voulez, dans ces expressions, c'est justement le fait que pour Descartes, la connaissance doit nécessairement procéder à partir des éléments les plus simples. Ne disons pas des éléments simples. Ça, c'est la mauvaise image que Bachelard a faite de Descartes en disant Descartes, c'est pour Descartes, c'est le simple. Descartes confond le simple avec ce qui nous apparaît comme simple. Bon, il aurait quand même pu se demander si Descartes n'avait pas eu l'idée d'une telle distinction entre ce qui nous apparaît comme simple et ce qu'il est effectivement. À mon avis, je pense que oui, quand même. Et que Bachelard en prend à son aise, si vous voulez, avec la façon dont Descartes parle du simple. Descartes ne parle pas du simple au sens d'un superlatif, il parle du simple au sens du plus simple, toujours. Hein. C'est-à-dire que la décomposition n'est pas en droit fini. Hein. Elle est d'une certaine manière indéfinie. Et par conséquent, également le fait que le simple ne se présente pas toujours de la même façon. Ça dépend des configurations. Il y a des simplicités, si vous voulez, plus complexes que d'autres, d'une certaine manière. Bon, tout ça, c'est des questions qui sont assez compliquées, c'est le cas de le dire, hein, mais qui sont très intéressantes pour justement se démarquer d'une image, simpliste, si vous voulez, de Descartes, c'est-à-dire qu'au fond, Descartes voulant réduire les choses complexes aux choses simples et croyant que le simple, c'est quelque chose qui se découvre comme ça, c'est comme s'il y a une sorte d'atomisme en matière de vérité. Bon, mais quand Descartes parle justement de semences de vérité, ou quand il parle de nature simple, il parle de choses qui sont susceptibles justement de nous conduire à des vérités plus élevées ou plus complexes. Il y a cette idée, si vous voulez, chez Descartes, que l'esprit a en lui tout ce qui lui est nécessaire pour justement parvenir à trouver la vérité. Donc, non seulement l'esprit n'est pas vide, mais l'esprit est fertile, naturellement. Ce qui le stérilise, c'est plutôt les études, les traditions, les livres, les opinions, les préjugés. Voilà. C'est au fond tout ce qui nous empêche d'avoir une relation directe et naturelle avec les choses. D'une certaine manière, quand Descartes parle de lumière naturelle, il parle justement de quelque chose qui est la plupart du temps recouvert par les préjugés, par les traditions. Et son ambition, c'est de redonner à l'esprit une sorte de primitivité, une sorte presque de sauvagerie, si vous voulez, ou d'état de nature. Voilà. Au sens où il retrouverait, dans cette sorte de simplicité native, il retrouverait justement la lumière naturelle qui est inséparable de l'esprit humain. Alors évidemment, il y a là, si vous voulez, un engagement métaphysique qui, même s'il n'est pas formulé comme tel, en tout cas dans les régulés, est de nature évidemment métaphysique. Ce qu'il y a de métaphysique, si vous voulez, dans cet engagement, c'est cette idée justement que Dieu a donné à l'homme, à l'esprit, des éléments ou des outils par lesquels l'homme peut justement trouver des vérités. Seulement, il faut s'entendre. Quand on dit que Dieu a donné à l'homme des semences de vérité, des éléments qui lui permettent, etc., une lumière naturelle, etc., etc., ça ne veut pas dire pour autant que Dieu a communiqué à l'homme ou à l'esprit humain, par le biais, par exemple, des mathématiques, comme chez Galilée, la clé de la réalité. Ou la connaissance ultime de la réalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas clair. Je vais reprendre ma formulation. Dire que Dieu a donné ou a mis dans l'esprit des semences de vérité et qu'il nous a donné, au fond, tous les outils nécessaires pour progresser dans la recherche de la vérité et dans la découverte de la vérité. Ça ne veut pas dire que Dieu, par le biais, par exemple, des mathématiques, nous a, pour ainsi dire, révélé la nature de la nature, ou l'essence de la nature. Alors, il faut faire une petite parenthèse ou un petit pas sur le côté, plutôt que parenthèse, pour rappeler, ce qu'on ne fait pas très souvent, qu'à la même époque à peu près de rédaction des Régulés, c'est-à-dire, bon, c'est 128, mais Descartes évoque très brièvement, dans deux lettres à Mersenne, du 15 avril et du 6 mai 1630, donc on est vraiment dans la même époque, à la même période, il évoque justement, il énonce cette thèse qu'on appellera par la suite la thèse de la libre création des vérités que vous nommez éternelles. Dit-il à Mersenne, les vérités que vous nommez éternelles, la libre création des vérités que vous nommez éternelles. Alors beaucoup de commentateurs ont dit oui, mais Descartes a énoncé cette théorie en 1630 et on la retrouvera plus après. C'est faux, factuellement, c'est faux. On la retrouve notamment dans les sixièmes réponses aux objections. On la retrouve bon. Et par ailleurs, encore qu'on ne l'y retrouverait pas. Il s'agit de savoir si c'est véritablement une thèse cartésienne et si, en tant que c'est une thèse cartésienne, il n'a pas pu l'oublier, comme s'il avait eu un engouement passager pour quelque chose et puis il se tourne vers autre chose. Je crois qu'elle est tout à fait fondamentale et elle est tout à fait fondamentale pour comprendre le concept de science et sa portée, justement, chez Descartes. Ça veut dire quoi, la libre création des vérités éternelles, thèse qui a scandalisé tous les post-cartésiens? Ça veut dire que Dieu crée librement, non seulement le monde, mais les vérités qui guide l'esprit au contact du monde. Autrement dit, la vérité n'est pas quelque chose qui est consubstantiel à Dieu, auquel cas elle serait incréée comme elle l'est chez Leibniz. Les vérités sont incréées chez Leibniz. Elles font partie de l'entendement divin. C'est ça l'entendement divin. C'est un ensemble de vérités incréées, deux et deux font quatre, voilà ce qu'est l'entendement divin. Alors que Descartes pense que ces vérités qu'on appelle éternelles, et on n'a pas les moyens de penser qu'elles ne le sont pas, deux et deux font quatre, dans tous les mondes possibles, ça fera deux et deux font quatre. Oui, dans tous les mondes possibles pour l'homme. Mais Dieu était libre de créer un monde dans lequel deux et deux ne fissent pas quatre. Alors, n'essayons pas de concevoir cela, car c'est inconcevable, justement. Mais justement, c'est ça Dieu. Dieu, c'est une puissance inconcevable par l'homme. C'est ça qui signale la différence ontologique fondamentale entre Dieu, c'est-à-dire le Créateur, et les créatures. C'est-à-dire, en d'autres termes, entre l'infini et le fini. Il y a, si vous voulez, entre l'infini et le fini, il y a, si vous voulez, un abîme pour Descartes. En aucune manière, une relation de reflet, ou de continuité, ou d'image, ou d'analogie. Un abîme. Un abîme tel que, finalement, rapporté à l'infini, les propositions qui nous paraissent les plus évidentes ou les plus claires n'ont pas du tout le même sens que lorsqu'on les énonce d'un point de vue fini. Autrement dit, si vous voulez, il y a une équivocité fondamentale entre l'infini et le fini. Bon, eh bien, l'idée de Descartes et de le début, c'est que les vérités humaines sont finies. Ce sont des choses finies. Fini, ça veut dire créer. Et que par conséquent, elles ne nous ouvrent pas, si je puis dire, la compréhension de celui qui a créé le monde avec ses vérités qui forment le monde. D'où cette idée qu'au fond, la vérité, si vous voulez, ou ce que nous appelons les vérités, il n'y a aucune raison de ne pas les appeler les vérités mathématiques, les vérités de logique, que les vérités, d'une certaine manière, sont des choses, enfin, sont des propositions, sont des énoncés, sont des idées conformes à notre esprit, mais non pas inhérentes à la nature ou à la réalité, en elle-même. C'est-à-dire tel que Dieu l'a créé. Du coup, si vous voulez, la vérité devient quelque chose d'humain et non pas quelque chose de transcendant ou de divin, comme c'est le cas chez Spinoza, comme c'est le cas chez Leibniz, comme c'est le cas chez Malebranche, comme c'est le cas chez pratiquement tous les grands ce qu'on appelle cartésiens ou post-cartésiens. Au fond, la vérité chez Descartes, est quelque chose qui est proportionné à l'esprit humain. Est vrai ce que mon esprit conçoit comme vrai, ou ne peut pas concevoir autrement que comme vrai. Mais ça ne donne pas de nécessité aux choses. Ça ne fait pas, si vous voulez, de l'entendement humain le législateur de la nature ou de la création. Non, ça fait de l'entendement humain un entendement, si je puis dire, régional. C'est-à-dire un entendement qui a affaire à des vérités adéquates à son pouvoir et à sa portée, et non pas à des vérités immanentes au réel ou à la nature, comme c'est le cas chez Galilée avec la citation par laquelle j'ai commencé cet exposé. Donc vous voyez que s'entrecroisent, si vous voulez, dans la pensée de Descartes, des motivations scientifiques, on appellerait ça comme ça aujourd'hui, et des motivations métaphysiques. Et que les unes et les autres sont indissociables. Enfin, elles sont indissociables les unes des autres. Hein. Elles avancent ensemble. Il ne faut pas croire, si vous voulez, comme sur un schéma positiviste, que la science chez Descartes est, pour ainsi dire, préservée de la métaphysique. Non. Le fondement de la science est métaphysique. C'est l'idée que l'esprit a des semences de vérité, c'est l'idée que Dieu est absolument transcendant à la vérité, qu'il crée la vérité, et que par conséquent, la vérité n'est pas de l'ordre divin, mais qu'elle est de l'ordre humain. Hein, qu'elle est de nature finie, si vous voulez. Hein. Donc, il devient possible, si vous voulez, à Descartes, et contrairement à Galilée, de penser, lui aussi, la rationalité, si vous voulez, de la nature, sa rationalité physique et mathématique, sans pour autant faire de cette rationalité une rationalité infinie, une raison infinie. Pourquoi ? Parce que le Dieu de Descartes, et ça, il le dit dans un texte publié, donc là, il n'y a plus de... Et à peu près de la même époque, en 1632, c'est le Traité du Monde, qui s'appelle aussi Traité de la Lumière. Il le dit au chapitre 7, 6 et 7. Parce que Dieu, pour Descartes, est l'auteur des lois de la nature, c'est-à-dire Dieu donne des lois à la nature. Voyez, c'est plus du tout la rationalité galiléenne de lois immanentes à la nature, hein, comme chez Galilée. Les lois de la nature sont d'une certaine manière des choses que Dieu impose à la nature. Il a fait agir, ce qui, évidemment, a pour implication immédiate que la nature n'est pas, si vous voulez, son propre principe de mouvement et de repos, contre la définition la plus connue, si vous voulez, de la nature aristotélicienne. La nature n'est pas son propre principe de mouvement et de repos. La nature est mise en mouvement, et par conséquent en repos, par les lois que Dieu lui a imposées de suivre. Ces lois qui sont, en gros, toutes des lois de conservation. Hein ? Conservation du mouvement, conservation de la matière, conservation de la direction, c'est les trois principales lois de la nature pour Descartes. Mais vous voyez que ces lois ne sont pas lois au sens scientifique du terme. Elles sont presque plus lois au sens politique ou juridique du terme. C'est des commandements par lesquels Dieu fait agir la nature. Bon, première chose essentielle, si vous voulez, la nature n'agit pas par elle-même. La nature n'agit pas par elle-même. Mais la nature, si vous voulez, est d'une certaine manière passive. Écoutez, le meilleur équivalent du terme de nature, c'est celui de matière. Par nature, dit Descartes, je n'entends pas une déesse ou une puissance imaginaire, mais la matière, en tant que Dieu lui a conféré, justement, lui a imposé les lois qui sont... les lois du mouvement, les lois de conservation, hein, avec le principe d'inertie, ou le principe de la même direction, ou de la quantité, de la conservation de la même quantité de direction dans l'univers, etc. etc. Bon, les trois lois qui sont formulées dans le chapitre 7 du traité de la lumière, ou du traité du monde, le monde ou traité de la lumière. Hein. Alors, progressons un petit peu plus pour... dire un mot justement sur cette matière. Vous voyez que la matière cartésienne, par opposition avec même la matière galiléenne et plus encore celle de Leibniz, par exemple, plus tard, la matière cartésienne ne consiste, si vous voulez, qu'en rapport ou relation de grandeur entre les choses, hein, selon la célèbre expression cartésienne, grandeur, figure, mouvement. Grandeur, figure, mouvement. Telle est l'essence de la matière. Autrement dit, la matière n'a pas en elle une force qui lui serait immanente, c'est la célèbre vis incita de Leibniz. La matière n'a pas une puissance dont les effets seraient déroulés les uns après les autres. Non. La matière, c'est de l'étendue géométrique. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est les trois dimensions. Largeur, longueur et profondeur. Ça, c'est une conception fondamentale de Descartes. Mais c'est une conception qui est métaphysique, d'une certaine manière. Ce qui est métaphysique dans cette conception, c'est l'éradication, si vous voulez, de tout principe d'autonomie ou de mouvement propre dans les corps. On a souvent reproché ça au cartésianisme, d'avoir au fond une conception passive, inerte du corps matériel, hein, du corps la chaise, la pierre. C'est-à-dire que pour lui, au fond, il n'y a pas de force dans les corps. La force ne vient que de rapports de mouvement. Et le mouvement, il est donné par Dieu en même temps que la matière. C'est ça qui fait la diversité des figures, c'est le mouvement imprimé à la matière. Vous voyez, comme si vous faisiez tourner une masse matérielle très 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 rapidement, de manière à ce qu'elle se divise ou elle se fisse, si je puis dire, en une infinité de figures. Voilà la nature cartésienne. C'est une nature qui, d'une certaine manière, ne vit pas. Elle suit les principes ou les lois que Dieu lui a imposées. Mais il n'y a pas d'âme dans cette nature. Et on peut même se demander jusqu'à quel point même il y a de l'identité. C'est-à-dire, si, vous savez, c'est la célèbre, enfin, quand Aristote étudie la nature, il étudie ce que sont les choses en elles-mêmes. Hein? C'est le tiesti ou le toti eneinai. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce qui a à être. Bon. Et au fond, chaque chose obéit, si je puis dire, à ce qu'on appelle dans l'école la forme substantielle. La forme substantielle, c'est ce qui fait, si vous voulez, qu'une chaise est une chaise, et pas une table. Qu'un chapeau est un chapeau, et pas, je sais pas quoi, bon, peu importe. Bon, que, voilà, c'est ça la forme substantielle. C'est au fond l'identité spécifique d'un corps. Bon. Eh bien, la conception géométrique des corps chez Descartes élimine les formes substantielles des corps physiques. C'est-à-dire que les corps physiques, mettons les chaises et les tables, mon exemple est très mal choisi parce que ce n'est pas des choses naturelles, bon, ben bon, les étoiles, les pierres, le sable, bon, la mer, etc. Au fond, ces choses-là n'ont pas d'autre identité que une identité numérique. C'est-à-dire qui résulte des rapports de mouvement ou de des rapports de mouvement ou de repos entre les différents corps de la nature. Ça veut dire que une chose physique n'a pas véritablement de substance. Qu'en tant que chose étendue, elle peut être autre que ce qu'elle est sans pour autant cesser d'être la même. Vous voyez, elle peut être la même tout en changeant de figure. Elle ne conserve pas d'identité substantielle. Chaque chose est au fond identique à la figure sous laquelle on la décrit. Et aux paramètres physiques et métriques par lesquels, si vous voulez, on tente de la connaître. Voilà, en un sens, se rejoindre deux choses qui semble tout à fait différente, si vous voulez, une sorte de rationalité mathématique stricte. C'est-à-dire, finalement, Descartes ramène les choses physiques à des figures géométriques. Oui. Et une détermination métaphysique fondamentale qui fait qu'au fond, les corps de la nature, les corps physiques chez Descartes, si vous voulez, n'ont pas d'énergie, de mouvement, de force qui leur soit propre. Bon, je passe à un troisième point dans cette première partie. pour revenir sur cette idée justement que les choses n'ont pas de nature d'une certaine manière, au sens traditionnel du terme. Les choses ne sont que des morceaux d'étendue, que des configurations d'étendue, les res extensa de Descartes, la chose étendue, figure, grandeur, mouvement, qui sont des notions purement opératoires, purement géométriques, purement métriques. Bon. Du coup, si vous voulez, il se produit comme une cassure dans l'univers entre finalement ce que sont les choses en elles-mêmes, c'est-à-dire au fond ce que sont les choses physiques en elles-mêmes, c'est-à-dire des choses étendues, des choses que l'on mesure, et finalement l'apparence de ces choses, la manière dont ces choses nous apparaissent. Descartes prend l'exemple au début du traité du monde de la lumière, qu'il appelle le sentiment de la lumière, on dirait plutôt la sensation, mais le terme de sensation n'est pas encore en vogue, et on emploie le terme de sentiment au sens aussi de sensation. Si vous voulez, c'est le terme latin sensus, qui veut dire aussi bien sentiment que sensation. Et il parle du sentiment de la lumière. Et il dit au fond, pourquoi croyez-vous que la lumière que vous voyez, par exemple là, sous ce plafond, que la lumière que je vois est semblable à la lumière qu'il y a dans le corps qu'il émet, que ce soit le soleil, que ce soit l'étoile, que ce soit un feu, hein. Au fond, il ne dit pas qu'il n'y a rien de semblable. Il dit, d'où tenez-vous pour vrai l'idée que les sentiments que nous avons des choses ressemblent aux choses. C'est-à-dire que la lumière qui est dans nos yeux est la même que la lumière qui est dans le corps qu'on appelle lumineux. J'explique autrement. Il ne peut pas y avoir, pour Descartes, de lumière ou de puissance de lumière dans les corps appelés lumineux. C'est-à-dire que le soleil n'a pas la lumière qu'il diffuse en lui. Il a en lui une matière, si vous voulez, grandeur, figure, mouvement, etc., etc., qui produit chez les êtres sensibles que nous sommes ces idées ou ces sentiments que nous appelons la lumière, la couleur, la variété des choses, hein. C'est-à-dire ce qu'on appelle les qualités sensibles, pour aller vite, ou ce qu'on appellera les qualités sensibles. Ça, c'est une idée tout à fait partagée par Galilée aussi. J'ai des textes de Galilée que j'avais apportés là-dessus, qui sont tout à fait parlants aussi, qui disent la même chose en gros. C'est une distinction absolument fondamentale et constitutive de la science et de la métaphysique moderne, la distinction entre ce que sont les corps en eux-mêmes, physiquement si vous voulez, matériellement, et ce que sont les choses en tant qu'elles sont sensibles. Locke thématisera cette distinction en parlant de qualité première et de qualité seconde. Les qualités premières étant les qualités des corps en tant que corps. Voilà. En tant que corps, une table, si vous voulez, a une grandeur, un poids, une taille. Bon, voilà. Voilà ce qu'elle a en tant que table. Mais en tant que table, elle n'a pas l'apparence, elle n'a pas la dureté que je lui trouve en tapant dessus. Elle n'a pas, bon, la couleur qui est la sienne, rouge, verte, ou je sais pas trop quoi, etc., etc. Car ces choses ne sont pas des propriétés métriques, mais ce sont des qualités sensibles, c'est-à-dire des choses qu'on éprouve et non pas des choses qu'on calcule, des choses qu'on sent et non pas des choses qu'on calcule, qu'on divise, voyez, vous pouvez diviser un corps en de multiples façons. Vous pouvez diviser sa force, son énergie, sa vitesse, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas diviser le sentiment de lumière que vous avez de quelque chose, ou l'odeur, ou l'impression de dureté. Une qualité, si vous voulez, c'est quelque chose d'indivisible. C'est l'inverse de la quantité, qui est toujours divisible, si petite qu'elle soit. Bon, ben, d'une certaine manière, vous avez deux mondes, et non plus un seul. Vous avez le monde de la matière, le monde de la physique, le monde de la géométrie, qui est purement quantitatif. Tout se résout en relations quantitatives. Et vous avez le monde humain, qui est un monde qualitatif, c'est-à-dire un monde où il y a des couleurs, des odeurs, des choses, des variétés, etc., etc. Évidemment que Descartes ne nie pas, si vous voulez, l'existence de ce sensible. Au contraire, c'est peut-être un des premiers à en reconnaître, d'une certaine manière, l'autonomie et le lien direct que le sensible a avec l'homme. Pourquoi avec l'homme ? Parce que, justement, pour quelle raison Descartes poursuit-il d'un bout à l'autre de sa vie de savant et de philosophe, poursuit-il comme si c'était, si vous voulez, le truc dont il fallait absolument se débarrasser dans sa vie, quoi, hein. L'idée que les corps, les choses de la nature, les choses matérielles sont habitées par des tendances, des inclinations, des petites âmes, des esprits, des choses comme ça. Hein. Ben c'est justement pour tenir l'esprit dans la variété la plus grande de ses acceptions et de ses pouvoirs et opérations pour la chose la plus propre à l'homme. Autrement dit, la dualité, si vous voulez, entre le corps et l'esprit est tout autant une dualité métaphysique qu'une dualité scientifique. La science n'aurait pas été possible sans cette dualité, c'est-à-dire sans l'idée, justement, que les choses matérielles sont des quantas, si vous voulez, des quantités, des choses qu'on peut mesurer, etc., et non pas des qualés, c'est-à-dire des choses qui s'éprouvent, qui se sentent. Pourquoi ? Parce que sentir, par exemple la lumière, l'odeur, c'est une conscience, sentir. C'est pas, si vous voulez, un état du corps, la sensation. C'est une conscience. C'est une intentionnalité. Et de ce point de vue, ce rapport, si vous voulez, que j'ai aux choses à travers l'intentionnalité de la sensation, est un rapport qui dénote à tout coup un esprit, c'est-à-dire une chose qui pense pour Descartes, et non pas une chose étendue. Donc vous voyez que la différence ou dualité, chose qui pense et chose étendue, elle n'est pas tant fondée sur des considérations théologiques ou transcendantes, etc., que sur ce qu'on pourrait appeler une description phénoménologique des actes de l'esprit. Ce qui caractérise les actes de l'esprit, c'est l'intentionnalité, c'est la conscience, c'est le fait de viser quelque chose. C'est ce que Husserl dira que Descartes, d'une certaine manière, a trouvé avec le cogito. Bon. C'est ça qui caractérise. Et justement, c'est l'inverse de la matière, qui ne poursuit rien, aucune fin, aucune intention, aucune... Voilà. Et donc, de ce point de vue, la différence entre chose étendue, chose pensante, avant d'être thématisée, comme vous le savez, dans le discours de la méthode, dans la quatrième partie, et dans les méditations, bien sûr, est, d'une certaine manière, requise par la science, et notamment la science physique élaborée par Descartes dans ces années-là. Parce que par la suite, Descartes ne fera que reprendre une science qu'il a déjà constituée. Le discours de la méthode n'apporte pas de choses nouvelles du point de vue scientifique. Ces choses, elles sont déjà établies. Vous savez, hein, Descartes n'a pas voulu publier Le Monde, qu'il avait fini en 1632, en raison de la condamnation par le Saint-Siège de Galilée et du mouvement de la Terre. En disant, bon, si ils condamnent Galilée, qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi ? Donc, je publie pas. Il attend quelques années, le discours de la méthode, où au lieu de publier la physique telle qu'elle est élaborée, déjà, hein, il publie, comme il dit, des échantillons. Les météores, la dioptrique et la géométrie. Mais qui sont des échantillons, qui ne sont pas justement un corps de science complet. Voyez. Eh bien, d'une certaine manière, la voie dans laquelle s'engage Descartes, plus dans la métaphysique à partir de ces années-là, le discours de la méthode et puis la méditation, elle est rendue possible par la constitution qui, d'une certaine manière, est à ses yeux définitive de la science physique et géométrique, c'est une seule et même chose. Dernier point, dans cette première... Ah oui, ça fait déjà un petit moment que je parle, en fait. Alors, dernier point, donc si je peux continuer un peu comme ça. Dernier point, à propos, justement, de cette... si vous voulez, bon, j'ai essayé de présenter les choses de façon un petit peu disjointe, la science, la métaphysique, si on essayait de les conjoindre maintenant, et de voir, au fond, comment elles sont inséparablement liées chez Descartes. On dirait ceci. Enfin, on pourrait voir ceci. Lorsque Descartes entreprend de refondre à la fois sa philosophie et sa science dans un seul et même ouvrage, ça donne les principes de la philosophie, Principia, hein. Il l'écrit d'abord en latin en 1644, après les méditations. Et ce sera traduit en français en 1647. Il présente l'ensemble de sa philosophie sous la forme justement de principes. Principe de la connaissance, c'est le premier livre, c'est la métaphysique. Principe des choses matérielles, c'est le deuxième livre. Et le troisième et quatrième livre qui sont occupés à constituer des sciences, l'astronomie essentiellement et la physique. Bon, on laisse de côté ces choses-là, cette question-là. La question qui m'intéresse, c'est la suivante. Descartes a pour ambition, et Dieu, les principes de la philosophie en sont la marque, d'expliquer tous les phénomènes de la nature. J'ai sous les yeux, j'ai fait pour les raisons d'agrégation, un long cours sur le phénomène. J'ai quelques citations que je peux vous lire, là. Article 199 de la quatrième partie, expliquer tous les phénomènes de la nature. L'ambition d'expliquer non pas un seul phénomène, mais tous les phénomènes, c'est-à-dire toute la physique. Bon, voilà. Donc il y a assurément, si vous voulez, chez Descartes, une ambition totalisatrice, qu'on trouve déjà dans les règles, c'est-à-dire qu'au fond, si la science n'est pas une, c'est pas une science. C'est un ensemble de connaissances sans lien, et d'ailleurs stérile, inutile sur le plan pratique, parce que justement non unifié sur le plan théorique. Il n'y a pas d'opposition chez Descartes entre théorie et pratique. On aura une pratique d'autant plus efficace qu'on a eu une théorie juste, vraie, des choses de la nature. Hein ? C'est pas du tout un positiviste, si vous voulez, qui dit « bon ben voilà, ça marche, donc c'est bon, hein ? Ça marche, donc c'est vrai ». Non, c'est quelqu'un qui pense que si ça marche, c'est-à-dire si les choses qu'on a construites produisent des effets, c'est parce que les principes dont on les a tirés sont des principes vrais. Sont des principes vrais. Seulement, il y a une grande différence entre les principes vrais, tels que Descartes pense les avoir dégagés, principes de la matière, principes, etc., bon, les principes physiques, si vous voulez, entre les principes vrais, les principes de la physique, hein, qui sont plus métaphysiques que physiques d'ailleurs, mais bon, entre les principes vrais, et les phénomènes qui résultent de ces principes. L'idée, c'est que Dieu a pu, à partir des principes, construire ou produire une infinité de phénomènes différents. Si bien que les phénomènes que nous rapportons aux principes, nous ne pouvons le faire que probablement. Nous ne pouvons pas penser que les phénomènes de la nature sont déduits
ou déductibles des principes de la nature. Il y a, si vous voulez, entre les principes de la nature, tels qu'on les connaît, et les phénomènes de la nature, il y a, si vous voulez, un grand intervalle, et ce grand intervalle est lié justement à la possibilité qu'a eu Dieu de faire, avec les mêmes principes, une infinité de mondes possibles. Il se trouve que c'est dans ce monde que nous sommes, et c'est ce monde que nous comprenons. Mais d'une certaine manière, nous aurions parfaitement pu être dans un autre monde et le comprendre autrement. Autrement dit, il n'y a aucune nécessité, si vous voulez, rationnelle, liée à la structure du monde. C'est contingent. C'est contingent. Contingent, ça ne veut pas dire que c'est sans raison. Contingent, ça veut dire qu'on ne peut pas déduire les phénomènes de la nature des principes de la physique ou de la métaphysique. Ça, Descartes le dit de façon absolument explicite, dans la troisième partie des principes, article 43.
Je pourrais vous citer d'autres... je les ai là, mais bon.
L'article 46 aussi, également. Bon. L'article 47. Bon, enfin voilà. Donc vous avez toute une...
Je l'ai amené, autant l'utiliser. Je vais juste vous...
Parce que ce n'est pas des textes qu'on va voir en général. La troisième partie des principes, bon,
le soleil, et les parélis, et les machins, et les trucs, et les apparences dans le ciel, bon, c'est de la science, quoi. C'est-à-dire c'est périmé quoi, complètement. Ça n'a plus le moindre intérêt, c'était complètement...
Bon. Mais l'intérêt que ça a, c'est pour comprendre comment la philosophie cartésienne, elle s'articule justement sur sa science, sur la science, au point d'en être inséparable. Par exemple, 43, qui est un article... Si les principes dont je me sers sont très évidents, si les conséquences que j'en tire sont fondées sur l'évidence des mathématiques, toujours, hein, et si ce que j'en déduis de la sorte s'accorde exactement avec toutes les expériences, il me semble que ce serait faire injure à Dieu de croire que les causes des effets qui sont en la nature et que nous avons ainsi trouvées sont fausses, car ce serait le vouloir rendre coupable de nous avoir créés si imparfaits que nous fussions sujets à nous méprendre, lors même que nous usons bien de la raison qu'il nous a donnée. C'est un raisonnement à peu près équivalent, si vous voulez, à celui des méditations concernant la troisième méditation concernant la vérité, justement. Comment on peut des vérités aussi évidentes, hein, peuvent être soupçonnées de fausses sans croire que Dieu est trompeur. Or, comme c'est une hypothèse invraisemblable, que Dieu est trompeur, voilà. Mais il ajoute immédiatement après. Donc, au fond, quelque chose qui nous apparaît évident comme ça, forcément, Dieu l'a créé comme ça, parce que sinon on n'aurait pas eu ce sentiment d'évidence. Eh ben non, il ajoute dans l'article suivant. Mais parce que les choses dont je traite ne sont pas de peu d'importance, et qu'on me croirait peut-être trop hardi si j'assurais que j'ai trouvé des vérités qui n'ont pas été découvertes par d'autres, j'aime mieux n'en rien décider. Et afin que chacun soit libre d'en penser ce qui lui plaira, je désire que ce que j'écrirai soit seulement pris pour une hypothèse, laquelle est peut-être fort éloignée de la vérité. Mais encore que cela fût, je croirais avoir beaucoup fait si toutes les choses qui en seront déduites sont entièrement conformes aux expériences. Car si cela se trouve, elle ne sera pas moins utile à la vie que si elle était vraie, parce qu'on s'en pourra servir en même façon pour disposer des causes naturelles à produire les effets que l'on désirera. Texte un peu rugueux, mais d'une grande concision. Parce qu'on retrouve un certain nombre d'idées fondamentale de Descartes. Mettons trois idées, pour faire simple. Trois idées. La première idée, c'est que les mathématiques et l'évidence mathématique constituent le fondement de la rationalité humaine lorsqu'elle s'applique à la connaissance de la nature. Bon, il n'y en a pas d'autres. Pas de principe autre que les évidences mathématiques. La deuxième idée, c'est que il y a un abîme, bon, c'est peut-être excessif, mais bon, entre justement les choses que l'on connaît avec certitude et qui sont de l'ordre de principes mathématiques ou logiques, qu'on pourrait appeler des vérités éternelles, avec le modulo qu'on a introduit tout à l'heure. Et la variété infinie des corps qui composent la nature. Tout le problème de Descartes est de savoir
comment remonter des effets aux causes. C'est-à-dire comment, à partir d'un certain nombre d'effets, on peut savoir que ces effets proviennent, procèdent de telle cause et pas de telle autre. Bon. Eh bien, à ce niveau-là, il y a justement une complexité dans la démarche ou un embarras dans la démarche. Parce que justement, Descartes nous dit, il nous avoue, qu'à ce moment-là, plusieurs voies sont possibles. Plusieurs explications sont possibles. Et par conséquent, la science cartésienne, elle est aussi certaine dans ses principes que probable dans ses explications. Une grande probabilité, surtout si c'est Descartes. Hein. Mais bon, malgré tout, épistémologiquement, ça ne peut pas être plus que probable. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus question ici de mathématiques. Il est question ici de causalité. C'est-à-dire de la façon dont Dieu a voulu ordonner les phénomènes, les produire. Et ça, on se trouve toujours devant cette sorte de censure qui consiste à dire on n'est pas au conseil de Dieu. On ne sait pas ce qu'il a voulu faire. On ne sait pas comment il a procédé. Le Dieu de Descartes est une pure puissance. Ce n'est pas quelque chose qui révèle son mode de fonctionnement en fonctionnant. Troisième remarque, vous voyez que l'intérêt de Descartes pour la science, c'est un intérêt aussi technique. C'est-à-dire que la technique, ce n'est pas un corps ajouté à la science. La technique est la destination de la science, la finalité de la science. Et la technique, c'est quoi ? Ben, c'est utiliser justement des causes différentes pour produire des effets qui ne sont pas ordinaires. La technique, elle consiste, si vous voulez, dans une sorte de synthèse des corps. Synthèse des corps naturels, qui ne sont pas naturellement synthétiques, pour produire justement des effets que ces corps, isolés les uns des autres, ne produisent pas. Mettons que vous joignez deux corps l'un avec l'autre, leur synthèse produira des effets qui seront spécifiques à cette synthèse, et non pas à chacun des corps en question. Hein. Voilà pourquoi Descartes a l'idée de donner d'une certaine manière à la science, le prolongement de la technique, c'est nous qui parlons de technique, le mot n'est pas évidemment chez Descartes, mais il parle des arts, voilà, c'est le sens qu'on retrouve d'artisan, hein, ce modèle, si vous voulez, de ce modèle démiurgique, en un sens. C'est-à-dire, au fond, la science nous permet de produire. Il y a toujours cette... exigence causale chez Descartes. C'est ça, comprendre, c'est produire. C'est pouvoir faire. Si j'avais le temps, je ferais un rapide excursus sur la question de l'idée chez Descartes, pour vous montrer comment l'idée, justement, chez Descartes... et c'est pas sans avoir choqué ses contemporains, elle ressortit, elle aussi, au principe de causalité. Comment une idée est produite par quelque chose ? Comment une idée a une cause ? Et que c'est cette cause qui va nous permettre justement de comprendre, disons, la puissance de cette idée. Mais je laisse cette question de côté. Je reviens à ma question de la technique et des effets divers qu'on peut obtenir et par laquelle, justement, on va voir que la science que l'on a édifiée, elle n'est pas stérile, comme la science des anciens, qui produit rien, qui n'a jamais rien produit. Mais elle est opératoire. Elle est efficace. Bon. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que la technique constitue un ordre qui s'ajoute à la nature ? Je crois pas, même. C'est pas parce que la technique ou l'intelligence technique fait des choses que la nature ne fait pas que les choses qu'elle fait ne sont pas aussi naturelles que celles que la nature fait. Il y a une idée qui n'est pas une idée spécifiquement cartésienne, mais à laquelle s'attache une signification, elle, spécifiquement cartésienne, c'est l'idée de la réversibilité de la nature et de l'artifice, dont le texte majeur, c'est l'article 204 de la partie 4 des principes. Je vérifie que c'est bien 204. C'est bien 204. Non, 203, pardon. 203. Texte magnifique, mais beaucoup écrit par le traducteur de Descartes. Parce que le texte latin est beaucoup plus sobre et moins exaltant que la traduction. Mais Descartes a revu la traduction, donc c'est un texte de Descartes. Hein. Mais il a ajouté des choses qui sont très, très belles, rhétoriquement. Il dit « Il est certain que toutes les règles des mécaniques appartiennent à la physique, en sorte que toutes les choses qui sont artificielles sont avec cela naturelles. » Car par exemple, lorsqu'une montre, vous savez que c'est un exemple classique chez Descartes, la montre, hein, l'horloge, la machine, on aurait pu parler de ça aussi. Hein. Lorsqu'une montre marque les heures par le moyen des roues dont elle est faite, cela ne lui est pas moins naturel qu'il est à un arbre de produire ses fruits. C'est pourquoi, en même façon qu'un horloger, en voyant une montre qu'il n'a point faite, peut ordinairement juger de quelques-unes de ses parties qu'il regarde, quelles sont toutes les autres qu'il ne voit pas, ainsi en considérant les effets et les parties sensibles des corps naturels, j'ai tâché de connaître quelles doivent être celles de leurs parties qui sont insensibles. Il y a deux idées, si vous voulez, qui s'entrecroisent dans ce texte. L'idée de la réversibilité du naturel et de l'artificiel, ça veut dire que les machines, si vous voulez, ne procèdent pas de fonctionnement différent de celui des choses de la nature. Et qu'au fond, la notion de machine, d'une certaine manière, unifie les objets, qu'ils soient naturels ou artificiels. Ils fonctionnent selon des principes qui leur permettent justement de s'organiser eux-mêmes, d'une certaine manière. Vous voyez ? C'est pas pour rien que l'exemple de Descartes, c'est toujours l'horloge ou la montre. Parce que c'est le seul engin automate à l'époque de Descartes. Et ça le fascine, ça, les automates. Pourquoi ? Parce que ce sont des trucs qui se meuvent par eux-mêmes, qui sont pas poussés par une vis à tergo, hein, bon, qui sont donc eux. Hein, mais qui pourtant n'ont aucune puissance animique, si vous voulez, en eux. Il n'y a pas d'esprit dans l'horloge. Voilà ce que Descartes essaye de... Il n'y a pas d'esprit dans l'horloge. Alors que d'une certaine manière, on pourrait penser qu'il y a un esprit plus précis qu'aucun esprit humain, puisqu'elle mesure les heures comme aucun esprit humain ne pourrait le faire. Mais justement, c'est cette régularité, cette automaticité, cette systématicité qui témoigne de la différence ontologique, donc radicale, si vous voulez, entre une chose matérielle et une chose qui pense. Vous voyez où la mesure va jouer, si je puis dire, son rôle révélateur de la différence ontologique. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'une pensée humaine ? C'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Et qu'est-ce que c'est que l'activité de la pensée humaine ? C'est une activité non mesurante, justement. C'est pour ça que c'est le jugement qui constitue l'essence de l'esprit. Ce n'est pas le calcul. Alors que, d'une certaine manière, les choses matérielles, si vous voulez, sont des choses exactes, qui se répètent, qui fonctionnent toujours de la même manière, pour Descartes en tout cas. C'est le modèle de l'automate. Bon, eh bien, vous voyez qu'à partir de ce moment-là, le naturel et l'artificiel ne sont pas opposés l'un à l'autre. Mais il y a une continuité, si vous voulez, entre, justement, le monde de la nature et le monde que l'homme construit en tirant parti des ressources, justement, de la nature. C'est la célèbre page de la sixième partie du discours de la méthode, « Se rendre comme maître et possesseur de la nature ». Parce qu'on connaît les choses, etc., etc. Vous voyez que, au fond, la science cartésienne, qui est fondée sur des principes métaphysiques, n'a pas pour ambition de révéler la structure du monde, comme c'est le cas chez Galilée, comme c'est le cas chez Leibniz. Elle a une ambition beaucoup plus modeste, qui est en un sens d'améliorer le monde, de le rendre plus facile aux hommes, invention des engins, une médecine plus efficace. Voilà à quoi pense Descartes. Voilà le rêve de Descartes. C'est de faire en sorte, si vous voulez, que la science rende le monde des hommes plus facile, plus vivable, plus humain, en un sens. Mais c'est pas du tout, si vous voulez, que la science nous révèle la structure ultime des choses. Il peut pas y avoir cette ambition dès lors que vous voyez ce qui sépare le plan des principes du plan des phénomènes, le plan des causes du plan des effets. Il peut pas y avoir cette ambition. Il peut pas y avoir cette ambition ontologique. C'est-à-dire qu'au fond, la science est ontologiquement neutre. Elle ne dit pas ce que sont les choses. Elle dit comment les choses peuvent être utilisées, combinées, mises en œuvre d'une certaine manière. Elle nous dit comment les choses peuvent être fabriquées, mais pas ce qu'elles sont en elles-mêmes. C'est pour ça que quand Leibniz écrira un petit opuscule qui s'appelle le De Natura Ipsa, il jettera une bombe de plus dans le jardin cartésien. Parce que justement, ce qu'il veut montrer, c'est que la nature a une nature, justement. Natura ipsa, la nature elle-même. Et non pas la nature telle que la mécanique entreprend de la comprendre et de la faire marcher. Il s'agit justement de montrer ce qu'est la nature en elle-même. Et donc, il est sûr que la science de Leibniz, comme celle de Galilée, a une vocation ontologique. Pas celle de Descartes. Elle a une vocation technique. Autrement dit, elle n'est pas révélatrice de la structure du monde. Elle ne nous dit pas comment les choses sont faites. Elle nous dit comment les choses, à la limite, elle nous dit plus comment les choses pourraient être faites ou ont pu être faites que comment les choses sont faites. Bon.
Alors, comme je m'y suis engagé, quelques mots simplement, puis je vais m'arrêter, il est déjà tard quand même. Quelques mots pour vous donner, si vous voulez, une idée un peu d'une bifurcation possible à partir de cette science cartésienne, car évidemment, ils ont tous lu et commenté Descartes, les post-cartésiens, les Pascal, les Leibniz, les Spinoza, les Malebranche, les Locke, etc. Bon, bon. Mais peut-être pour vous permettre... si vous voulez, de faire varier un petit peu la signification de la science et de la philosophie cartésienne, ou du concept de science cartésienne, deux points de vue d'une certaine manière opposés sur la science de Descartes. Le point de vue de Pascal, le point de vue de Leibniz. Le point de vue de Pascal est intéressant parce que Pascal, vous savez, c'est un très grand savant, qui ne se pense pas comme un philosophe et qui pense très tôt, si vous voulez, que la philosophie, c'est-à-dire celle de Descartes, à laquelle il rend l'hommage qu'il faut rendre, quoi. Bon, il reconnaît la grandeur de la philosophie cartésienne, mais que d'une certaine manière, le tort de Descartes, si vous voulez, la faute de Descartes, pas l'erreur, hein, comme dit l'autre, hein, mais la faute de Descartes, c'est d'avoir justement donné à la science une portée philosophique. C'est-à-dire, vous allez voir, ce sont deux critiques inverses l'une de l'autre, celle de Pascal et celle de Leibniz. C'est-à-dire d'avoir fait croire que la science humaine reposer sur des principes qui étaient au fond des principes premiers. C'est une tautologie, hein, vous le savez, hein, bon, principe, ça veut dire premier, bon, sur des principes premiers. Je crois que la critique de Pascal, c'est pas tant la critique de la fausse science cartésienne, je sais qu'il pourrait le faire, parce que la physique de Descartes, si vous voulez, c'est une physique quand même largement fantaisiste, hein, sur le plan, dans ses explications. Bon. Mais ce qu'il vise, c'est l'ambition fondationnelle, si vous voulez, de la science cartésienne. Mais il en révèle, en un sens, l'aspect le plus important, justement. C'est-à-dire l'inséparabilité de la métaphysique et de la science. C'est ça qu'a voulu faire Descartes. Rendre métaphysique et science inséparables. Fonder métaphysiquement la science. Ça ne veut pas dire que la science a ensuite une portée métaphysique. Non, aucunement. Mais elle a un fondement métaphysique. Et ce fondement, c'est la dualité du corps et de l'esprit. C'est la puissance de Dieu, etc. Bon, on ne revient pas là-dessus. Bon, bien, au fond, pour Pascal, ça revient à diviniser la science humaine. Ça revient à lui donner, si vous voulez, des fondements qui sont quasiment, si vous voulez, des fondements sacrés. C'est-à-dire la connaissance des premiers principes, la lumière naturelle, les évidences, les idées claires et distinctes, etc., etc. D'une certaine manière, c'est cette ambition, ce qu'on pourrait appeler, en termes pascaliens, ce serait pas difficile, l'amour propre, si vous voulez, la libido sciendi ou l'amour propre métaphysique de l'homme que Pascal va déconstruire dans sa critique de la science cartésienne. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il critique pas la science elle-même. Dieu sait qu'elle est critiquable. Mais que ce qu'il critique, c'est l'ambition cartésienne de faire de cette science une production de l'esprit humain. Une fertilisation de l'esprit humain, pour reprendre notre mot de semence de vérité. Et Pascal va donner de la science un concept à la fois plus restreint et plus précis. Plus restreint au sens où la science ne pourra pas être dite certaine au sens cartésien, ou reposer sur des certitudes ou sur des évidences au sens cartésien. Non, la science, pour Pascal, elle repose sur des définitions, sur des conventions, sur des protocoles. Et par conséquent, non seulement elle ne révèle rien de l'essence des choses, mais elle ne nous permet pas, justement, de franchir, pour ainsi dire, le mur, mon expression n'est pas bonne, des phénomènes. On ne peut pas aller au-delà des phénomènes. La science n'a affaire qu'à des phénomènes, et non pas aux causes des phénomènes. Donc c'est une science d'une certaine manière non causale que Pascal cherche, je ne dis pas à élaborer, mais à expliciter. Une science non causale, c'est-à-dire une science qui, d'une certaine manière, c'est très proche, si vous voulez, de ce qu'on verra par la suite, notamment par exemple avec Comte, qui va pas s'occuper de la recherche des causes, mais qui va simplement, si vous voulez, mettre en relation les phénomènes les uns avec les autres d'une manière descriptive et provisoire. Ça, c'est l'idée par laquelle Pascal aussi s'oppose à Descartes. La science n'a qu'une portée provisoire. Autrement dit, ça peut être changé aussi vite que ça a été fondé. Ne pensons pas que les vérités que nous avons découvertes, que ces vérités, si vous voulez, sont des vérités permanentes ou éternelles ou définitives ou fondées, etc., etc. Non. Tout dépend des expériences. Les expériences sont les seuls principes de la physique, dit Pascal, en s'opposant quasi mot à mot à Descartes. Justement, les principes de la physique ne sont pas des principes métaphysiques, sont des expériences. Et donc Pascal développe un concept de science qui est un concept très pragmatique d'une certaine manière. Rendre raison des phénomènes, sauver les phénomènes, justement. C'est pour ça que Duhem, philosophe catholique, verra justement une opposition entre le dogmatisme, dont Descartes est la figure exemplaire, toujours, de toute façon, et ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, un scepticisme ou un phénoménisme, qui consiste non pas à rejeter la science, bien au contraire, mais à faire de la science une description des phénomènes, et pas une explication causale, une description des phénomènes. Dernier mot sur Pascal, pour dire que, en un sens, Pascal va scinder en deux ce que Descartes a cherché à réunir, c'est-à-dire la science et la vérité. La science n'a pas pour ambition la vérité, au sens où les philosophes entendent ce terme, et au sens où ils l'entendent, c'est une idole. Vous connaissez la célèbre pensée de Pascal, on se fait une idole de la vérité. On se fait une idole de la vérité. Une idole de la vérité, ça veut dire que l'esprit pense qu'il peut atteindre la vérité. Qu'il peut la, et notamment par le biais justement des mathématiques, de la géométrie, c'est-à-dire comme Descartes a prétendu le faire. Et en un sens, la critique de la science chez Descartes, chez Pascal, la critique de la science cartésienne chez Pascal, c'est la critique de l'exportation, en quelque sorte, du modèle limité de la rationalité mathématique à l'ensemble de la rationalité. Les mathématiques sont un domaine clos, fermé pour Pascal, et non pas un domaine unifiant la rationalité, hein, et s'étendant dans la rationalité. Bon, voilà. Dernier point, la critique de Leibniz. Elle repose, mais si Fichon est venu ici, ah, c'était pas les mêmes, bon, d'accord. Elle repose, cette critique de Leibniz, sur l'idée que Descartes a, d'une certaine manière, donné un concept abstrait de la matière en faisant justement du corps une chose étendue. L'étendue est pour Leibniz un concept incomplet. Incomplet sans quoi ? Qu'est-ce qui rendrait complet ? Qu'est-ce qui rendrait complet le concept de chose étendue ? Eh bien, ce serait justement d'introduire dans la chose physique l'élément que Descartes a toujours cherché à éliminer, à savoir la force. Ce que Leibniz appelle, en prenant le mot grec dynamis, et il est le premier à le faire, la dynamique. La dynamique. Autrement dit, l'erreur de la science cartésienne, c'est d'avoir pensé la physique sous le concept de mécanique ou du mécanisme. Il faut, au lieu du concept de mécanisme, recourir au concept nouveau, chez Leibniz, et grâce à Leibniz, de dynamique ou de dynamisme. En un mot, dynamisme, ça veut dire quoi ? Dynamisme, ça veut dire que toute chose, au lieu d'être une chose simplement étendue et inerte, grandeur, figure et mouvement, ça produit rien, ça bouge pas, ça ne fait rien. Toute chose, chez Leibniz, a en elle, c'est la célèbre vis incita, une force, justement, que Leibniz appelle la force vive. Et c'est par cette force vive que les choses communiquent entre elles. Leur mouvement, notamment dans l'univers physique. Seulement, justement, la force vive, c'est pas une force aveugle. C'est une force directionnelle, toujours chez Leibniz. La force est toujours directionnelle. C'est pas, si vous voulez, une force qui est une quantité pure de mouvement ou d'énergie. Et en ce sens, ça ne veut pas dire pour autant que les corps physiques savent où ils vont, mais que les corps physiques, d'une certaine manière, sont la première anticipation de ce qui se produit progressivement et de plus en plus dans l'univers, c'est-à-dire, finalement, la recherche, par chaque chose, de son télos propre, de sa perfection. Et l'univers de Leibniz est d'une certaine manière un univers réenchanté, si je puis dire, ou réanimé. C'est-à-dire Leibniz remet dans l'univers de la science moderne l'âme, la force, l'esprit, l'énergie que Descartes avait cherché justement à exclure radicalement. Vous voyez, en un sens, Pascal critique Descartes en réduisant la science. Leibniz critique Descartes en étendant la science, en donnant à la science beaucoup plus de place, de portée et de richesse qu'elle n'a chez Descartes. Voilà, je m'arrête là.
Bien, merci. Merci d'avoir été au bout de tes possibilités. On ne va pas te poser trop de
questions. J'ai cours demain matin. Hein. Il faut garder un peu de voix.
Ils vont payer demain à Dijon les efforts fournis ce soir. Est-ce qu'il y a parmi vous des précisions à demander ? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Oui, je attends d'avoir le micro.
La fin de la question.
Est-ce qu'on peut faire le rapport avec Leibniz et la théorie du
Oui, ben, un rapport négatif, c'est-à-dire au sens où, pour Leibniz, Dieu ne pouvait pas créer finalement un autre monde que celui qu'il a créé, parce que c'est le meilleur justement des mondes possibles et qu'il ne peut pas ne pas obéir au principe du meilleur. Hein, il ne peut pas, parce que justement, ce principe, si vous voulez, Dieu ne le constitue pas par sa puissance propre. Dieu le trouve, si je puis dire, en lui. Il est purement immanent à l'entendement de Dieu, le principe du meilleur. Alors que chez Descartes, il n'en est rien, si vous voulez, on dirait les choses comme ça, que un concept comme le meilleur des mondes possibles n'aurait strictement aucun sens chez Descartes. Bon, alors peut-être que je m'avance parce qu'il n'en parle jamais parlé de ça, bien sûr, mais je m'avance à partir de ce qu'on connaît de Descartes quand même. L'idée que enfin, c'est le meilleur des mondes possibles parce que Dieu l'a créé. Voilà. Et non pas Dieu l'a créé parce que c'était le meilleur des mondes possibles. Voilà ce qu'il y aura. C'est-à-dire que la puissance, d'une certaine manière, chez Descartes, précède la valeur ou la perfection. La perfection dépend de la puissance. Et d'ailleurs, on pourrait le dire à beaucoup de niveaux de la philosophie cartésienne. Y compris au niveau humain. Au fond, la thèse du libre-arbitre... c'est quelque chose d'avoisinant, ce qu'on dit là. J'ai répondu à votre question ?
Est-ce qu'il y a une autre question ? À poser une question, il y a tellement de choses dans ce que tu as dit qu'on ne sait pas toujours par quel bout prendre l'ensemble. Peut-être pourrais-tu revenir un peu sur cette question, finalement, de fécondité de l'esprit, d'encouragement par Descartes à ce que l'esprit humain ne soit pas stérile, et pourtant... la postérité cartésienne lui reprochera cette stérilisation de l'esprit. On a reproché au cartésianisme, ou à une certaine manière d'entendre la pensée de Descartes, on lui a reproché de stériliser finalement par dogmatisme la science. Est-ce que tu pourrais justement revenir un petit peu sur ce point ?
Oui, d'ailleurs même, je pense que en écoutant ta question, je pensais justement que d'une certaine manière, Pascal pourrait reprendre à son compte cette critique de Descartes dogmatique, du dogmatisme cartésien, c'est-à-dire l'idée finalement que le savoir est fondé sur les idées claires et distinctes. Dogmatisme parce que c'est une prétention pour l'esprit à connaître la vérité d'une certaine manière directement, c'est-à-dire par l'intuition des essences, comme dirait Husserl. Et donc cette critique, elle vise justement à rabaisser en quelque sorte les prétentions de l'esprit humain à connaître par intuition les essences. Tout le but de Pascal consiste à enlever à l'esprit la faculté d'intuitionner justement le vrai. Le vrai, ça ne s'intuitionne pas. Ça se démontre. Ça se...
Y compris les vérités sensibles au cœur.
Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Les vérités sensibles au cœur, elles ne sont pas vraies au sens où sont vraies des vérités comme il fait jour, comme 2 et 2 font 4, elles sont pas vraies comme de façon purement factuelle. Les vérités sensibles au cœur. Et Justement, je crois que on peut pas s'engager là-dedans, mais je crois que Pascal réserve d'une certaine manière l'intuition au cœur, justement, et pas à l'entendement. Pas à l'entendement est purement discursif chez lui. Il fonctionne de façon propositionnelle. On pose une logique, si vous voulez, hein, on pose des axiomes. Voilà. L'esprit géométrique est de ce point de vue un texte remarquable. Disons, les définitions, on part pas de l'idée de la chose, on parle de la définition. J'entends par truc, voilà. Pareil pour les axiomes. On part pas d'idées claires et distinctes, on part d'axiomes. Et on en déduit ce qu'on peut, c'est tout, mais ça reste conventionnel. C'est une. Voilà, la science, à la limite, elle est pas loin d'un langage. Alors, elle a plus de fondement métaphysique. C'est ça que Pascal a vu le danger de Descartes. Il a vu le danger de Descartes, c'est d'une certaine manière de fonder la science métaphysiquement et par conséquent de donner aux hommes l'idée que, d'une certaine manière, ils peuvent être autonomes, quoi. Ils peuvent rejouer d'une certaine manière dans leur petit domaine ce que Dieu fait dans le grand. Parce qu'il y a une sorte de parité, ne serait-ce que par les semences de vérité, il y a une sorte de parité. Dieu a mis dans nos âmes des choses grâce auxquelles on peut trouver les lois de la nature. Mais il y a une sorte de parité entre finalement Dieu et l'homme, malgré la différence infinie qui les sépare. Il y a une sorte de parité, alors qu'il n'y en a pas entre la nature et l'homme.
Moi, j'avais une question par rapport à la technique.
La technique. Parce que la technique... chez Descartes, ce qu'on appelle technique, hein, encore une fois, il faut ramener les choses. Bon, ce qu'on appelle technique, c'est-à-dire l'application finalement de, c'est-à-dire ce que Descartes appelle les mécaniques. Voilà, par exemple, les mécaniques, les engins, les mécaniques, les choses comme ça. Bon, la technique consiste, si vous voulez, seulement, et c'est peut-être trop rudimentaire, à réorienter en quelque sorte les causes dans le sens où nous cherchons à obtenir des effets, c'est-à-dire à faire en sorte qu'elles produisent non pas les effets qu'elles produisent habituellement, mais d'autres effets, ceux que nous voulons produire. Et en ce sens, la connaissance des mécaniques est absolument nécessaire à la production d'effets qui ne résultent pas des mécaniques. Vous voyez, il y a comme une ruse, si vous voulez, de l'esprit avec la nature dans la technique. Voilà, on utilise les puissances naturelles, on utilise les forces, etc., à des fins qui sont pas celles de la nature, si tant est qu'on puisse parler de fins pour la nature. Hein. La technique, c'est en quelque sorte, si vous voulez, un devenir intelligent de la nature. Un devenir utile de la nature, une redirection de la nature. Mais en ce sens, ça n'a pas de... je crois pas, bon, Descartes s'est pas beaucoup penché sur cette question, donc on peut pas non plus. Ça ne relève pas d'une rationalité qui serait spécifique, qui serait propre à la nature. Et vous savez, on peut pas non plus comparer une pensée comme celle de Descartes sur la technique, et qui est vraiment quelque chose d'absolument embryonnaire. La technique, il y en a pour ainsi dire pas encore, hein, au niveau, en tout cas, qu'on appelle technique. On n'appelle pas technique, si vous voulez, les machines simples, hein, les outils, les leviers, les choses comme ça. On commence à parler de technique à partir du moment où il y a des automates complexes, et ça, il y en a pas à l'époque de Descartes. Si, l'automate complexe, c'est l'homme, le corps humain ou l'animal, l'automate complexe. Voilà. Et en un sens, c'est ça la machine à laquelle pense Descartes. C'est une machine qui serait aussi complexe qu'un animal, qui fonctionnerait aussi bien qu'un animal. Et voilà. Mais il pense. Il construit pas. Il n'en a pas la moindre idée. Donc comparer ça avec, évidemment, une réflexion comme celle de Simondon sur une technique, et d'ailleurs très largement fondée sur les systèmes auto-régulateurs, cerveaux réglés, etc., etc., qui sont surtout ceux auxquels s'intéresse Simondon, qui sont pas, si vous voulez, des techniques simples, mais qui sont des techniques de technique, si je puis dire. Un truc que vous pourriez peut-être voir sur ce plan-là, ou comparer, qui serait plus proportionné et qui donnerait peut-être des effets plus utilisables, c'est la manière dont Descartes et Leibniz pensent la machine. Descartes pense la machine comme un ensemble d'éléments. Leibniz pense la machine comme un ensemble de machines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments dans une machine. Tout est machine dans une machine. Les éléments sont des machines. Il n'y a pas d'éléments, plutôt. Hein ? Vous voyez ? Donc, en un sens, il n'y a jamais chez Leibniz, si vous voulez, comment dire, on descend toujours d'une synthèse à une autre synthèse. Mais on ne va pas de la synthèse à l'analyse. L'analyse est quelque chose de superficiel chez Leibniz, d'abstrait. C'est la synthèse qui est le concret, qui est le vrai. Si j'avais eu le temps,
je sais que je l'ai eu pourtant, mais bon,
j'aurais fait référence, j'aurais repris le problème de la substance. Mais comme j'en ai pas parlé chez Descartes, j'ai pas voulu le réintroduire avec Leibniz. Mais une grande partie du problème tient à ça.
J'avais une question, pas directement après votre exposé, mais en fait, je voulais juste savoir comment est-ce que la conception du sujet, le renversement, s'est opéré chez Descartes par rapport aux conceptions qu'il y avait juste avant.
Bon. Vous n'avez pas une plus petite question, non ?
Non, mais évidemment, c'est une question fondamentale, hein, mais... peut-être qu'avec les quelques éléments que j'ai livrés, on peut amorcer une réponse. Ben, si vous voulez, au fond, ça vient de la dualité entre le corps conçu comme chose étendue et l'esprit comme chose qui pense. Une dualité qui fait que, d'une certaine manière, si vous voulez, le sujet, chez Descartes, n'est pas défini comme un être total, complet, et premier, comme dans, par exemple dans la scolastique, ce qui est premier, c'est l'homme. L'âme et le corps ne sont que des choses abstraites par rapport au corps. Tandis que chez Descartes, ce qui est premier d'une certaine manière, épistémologiquement, c'est le concept d'esprit ou de choses qui pensent et le concept de choses étendues. Et même d'ailleurs, ce qui est premier chez Descartes, c'est le concept de choses étendues. Ce qui est très profond chez Descartes, c'est le concept de corps. Et c'est ce qui est pratiquement la première chose sur laquelle tombe Descartes dans sa carrière de savant et de philosophe, c'est la notion de corps. Et cette notion, j'ai commencé par là, il l'a expurgée de toute intentionnalité, de toute vie, de toute conscience, pour, d'une certaine manière, resserrer cette signification autour de l'esprit et de l'esprit seul. Le sujet, chez Descartes, c'est avant tout une chose qui pense, même si ce n'est pas qu'une chose qui pense. Mais c'est fondamentalement une chose qui pense. C'est ça que je dirais. Ce n'est pas un animal raisonnable, c'est un être, c'est une chose qui pense. Et il y a une grande différence entre un animal raisonnable au sens où c'est une totalité organique et une chose qui pense au sens où c'est une conscience intentionnelle. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'être sujet ? C'est pouvoir se rapporter à quelque chose sans constituer soi-même une chose. C'est embryonnaire, hein. Il faut évidemment développer, c'est une question très large, hein, très, très importante, mais voilà la direction, en tout cas, que je ferai.
Donc, je vous remercie.
Et moi aussi, je vous remercie de m'avoir écouté avec autant de patience.